Donc, je m'appelle Alice, je suis étudiante kiné et aujourd'hui je vais vous parler du film Parasite. Le film de Bong Joon-ho qui a été l'Oscar du meilleur film, notamment en 2019. Donc ce film, c'est un drame, mais sous couvert d'une histoire un petit peu rocambolesque. Dans un décor très luxueux, une famille va emménager et c'est une famille très riche. Nous allons suivre l'histoire d'une famille beaucoup plus pauvre qui va se mettre à travailler pour eux, progressivement, comme un parasite. Ils vont rentrer dans la vie de cette famille mondaine et c'est là où l'histoire va basculer, puisque les parasites qui avaient le contrôle, au bout d'un moment, ne vont plus rien contrôler du tout et l'histoire va prendre tout son sens. Alors j'adore ce film parce que c'est vraiment le centre de l'histoire, c'est la guerre des classes, la haute classe face au peuple. Et il y a aussi vraiment un thriller tout du long avec une chute incroyable, je vous laisse le découvrir.
Merci.
Mais de rien.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Après un premier numéro au mois de décembre avec la brigade cinéphile du cinéma Les Carmes, cette semaine on commence pour un premier numéro. On vous fait découvrir l'association Onifilm sur Orléans qui accompagne des projets. En compagnie de Julie, la cofondatrice, de Mickaël, comédien qu'on a déjà eu dans l'émission, qui a rejoint l'association et va nous expliquer pourquoi, et d'Andrea, une musicienne, vous découvrez en fait toute une structure d'accompagnement de projet en territoire. Et pour le premier de nos deux numéros, puisque la semaine prochaine nous rejoindra également Jules, cinéaste, réalisateur, eh bien on va découvrir comment un projet se construit en région, quel territoire on filme, comment on procède directement. Et c'est très intéressant, évidemment quand on est orléanais, mais également quand on vise plus loin, avec toutes ces associations qui fourmillent sur le territoire et qui permettent de créer du langage cinéma. Dernière partie cette semaine, la brigade cinéphile que vous avez eue la semaine dernière vous dévoile ses tops de l'année 2023. Bienvenue dans Graffiti, on attaque tout de suite. Au Moulin Gaufre, justement pour cette série de deux émissions en compagnie de membres de l'association Onifilm. Et c'est vrai qu'on est très très content de faire cette émission en votre compagnie parce qu'on avait eu Alexis, donc un des cofondateurs de l'association, qui nous avait fait son film préféré, qu'on avait rencontré à un forum des associations. Et puis ce qui est très intéressant aussi pour tous nos auditeurs, évidemment orléanais, de Navarre, de Belgique également, c'est découvrir comment une association fonctionne, une association d'accompagnement de projets évidemment, mais de plein d'autres initiatives. Et puis on va commencer, on va tendre le micro évidemment en premier à Julie qui va nous en parler, parce que tu es cofondatrice d'Onifilm. Et donc tu vas pouvoir, de manière globale, en à peu près 3h30, nous présenter cette association. Je mets un gros coup de pression d'entrée, c'est fantastique.
Oui, donc moi je m'appelle Julie, je suis la cofondatrice donc, de l'association Onifilm avec Alexis. Donc, c'est une association qu'on a fondée en 2020, pendant le premier confinement. En fait, avec Alexis, on avait tous les deux fait un service civique au Crous de Tours en accompagnement des étudiants pour faire de l'animation sur le campus. On avait mis en place un atelier cinéma, donc toutes les semaines on avait une séance de 2 heures et on avait commencé par écriture de scénario et puis on avait tourné un petit truc et tout avec les étudiants. On avait adoré ce qu'on avait fait, les étudiants avaient adoré ce qu'ils avaient fait et le Crous avait adoré ce qu'on avait fait.
Bon, ça va.
Donc au final c'était plutôt jackpot et en fait on avait tellement bien aimé ce qu'on avait fait, on avait tellement bien travaillé ensemble qu'on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de ça en fait, après le service civique. Au final le temps a passé, le Covid est arrivé, ça ne s'est pas fait tout de suite et puis pendant le premier confinement comme personne n'avait rien à faire et qu'on était tous sur nos canapés, on s'est dit bah écoute on n'a plus d'excuses donc c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Et donc on a fait ça pendant le confinement. C'est pas plus mal qu'on ait commencé pendant le confinement parce que du coup on a eu le temps de mettre en place la structure, de réfléchir à ce qu'on voulait faire, de faire les sites internet, de vraiment mettre en place, bâtir une base pour voir vraiment ce qu'on voulait faire après.
Donc quand la fin du confinement était annoncée, vous étiez un peu en galère, vous vouliez que ça se prolonge quoi en fait.
Bah oui parce qu'au final pendant le... en fait c'est un peu ça parce que pendant le confinement on est en mode « Eh venez on a fait une asso, venez bon, avec nous et tout » et à la fin du top « Bon bah maintenant il va falloir qu'on fasse des trucs
ouais, ».
Donc voilà et maintenant ça fait 3 ans qu'on est sur Orléans et ça tourne pas mal.
Ouais, c'est clair et net. Et puis après, on peut... c'est vrai qu'évidemment, il y a du projet en région. Donc là, on a beaucoup de missions, hein, au sein de l'association. Et c'est vrai que moi, j'ai parlé d'accompagnement de projet, mais c'est vrai que concrètement, les adhérents, et on est plusieurs là autour de la table qu'on va présenter, ils viennent directement apporter leurs compétences et chacun peut voir midi à sa porte en quelque sorte, quoi.
Bah oui, c'est totalement ça. En fait, on avait fait l'association parce qu'avec Alexis, on était un peu frustrés en fait, du manque de paysages cinématographiques en fait qu'il y avait dans la région. Il y avait pas grand chose et nous on s'était dit bah en fait on a la marque, tout le monde aille à Paris pour faire du ciné et on a envie de faire des trucs dans notre région parce qu'il y a des gens qui ont du talent dans le coin, il y a des gens qui ont envie de monter des projets et nous on a envie de mettre ça en avant en fait. C'est pour ça qu'on a fait l'asso.
Voilà, pour que les gens arrêtent de quitter la province et aller à Paris pour devenir ultra célèbre et riche, évidemment, non. on peut devenir célèbre en étant à Orléans, la Jeanne d'Arc en est la preuve, hein, c'est la dernière personne célèbre à être sortie d'Orléans depuis... Non, il y a Marion Cotillard, je crois. Alors je chambre évidemment, mais c'est vrai que c'est très important, l'air de rien, on rigole, mais c'est vrai que beaucoup de provinces, de régions, ce cinéma en région est vraiment vital, et on est vraiment dans la banlieue parisienne, souvent associé hein, dans le bassin parisien à cette grande capitale qui est très polarisante. Et puis, bah, de toute façon, déjà pour le territoire français, c'est logique. Donc, on imagine que pour les régions limitrophes, c'est un vrai débat, en tout cas. Mais il y a aussi la démarche, avant qu'on en parle évidemment avec tous les autres membres de l'asso, de tendre la main vers des projets qui parfois ne se concrétiseraient pas. C'est-à-dire que vraiment, si l'asso n'est pas là, il y a des projets qui ne se feraient jamais, quoi. Ça peut être des bouts d'idées, des bouts de script qu'on va développer, qui vont être amenés à être tournés, pourquoi pas, en tout cas, mis en place, à être concrétisés de manière concrète, à être mis en avant, quoi. Et ça, c'est important parce que finalement, il y a parfois des petites frustrations créatrices à droite à gauche de personnes qui ne se sentent pas légitimes pour faire du cinéma ou pour faire un court-métrage. Et cet accompagnement-là, il est hyper important là-dessus parce que le cinéma se démocratise en fait avec ces initiatives-là.
Bah, c'était aussi notre idée que tout le monde puisse venir un peu comme il est avec ses idées. Qu'il n'y ait pas de « Ah, bah, il faut que tu sois professionnel, il faut que tu en aies déjà fait ». C'est que nous, on voulait que ça soit ouvert à tout le monde. Que toutes les personnes qui soient intéressées, qui aient envie de participer, qui soient volontaires, qui aient des idées, des projets, elles puissent venir et qu'elles viennent poser sur la table leur projet en disant bah, « moi j'ai une idée, j'ai envie de faire ce truc-là, je ne sais pas comment faire, ou je n'ai pas les compétences, ou je ne connais personne pour m'aider et j'aimerais qu'on en fasse quelque chose ». Et nous, on s'était dit bah, « nous, c'est ça qu'on veut faire, on veut accompagner les gens, accompagner les projets, donc que ce soit pour de l'aide à l'écriture jusqu'à la diffusion ».
En effet, et ça, c'est assez essentiel. Donc là, imaginons un cas concret, je vais imaginer une invasion de dragons géants sur Orléans. Est-ce que c'est une grosse galère pour vous de m'aider à accompagner mon projet ? C'est pas le cas, mais je pourrais l'écrire. Si
alors, les dragons, c'est quand même un gros morceau.
50 mètres, pas plus. Godzilla, c'est un petit 100 mètres, allez, un petit 50. Quoi. Non, alors après, évidemment, derrière la vanne, c'est qu'il y a tous les registres, ça va sans dire, de cinéma qui sont accompagnés. Est-ce que pour l'instant, dans les projets que vous avez vus, il y a une proéminence pour un registre plutôt qu'un autre ?
Alors, pas vraiment. On a vraiment de tout. On a... beaucoup de gens qui font beaucoup de choses différentes et tout le monde est un petit peu pluridisciplinaire. On a beaucoup de gens qui ont envie de toucher à tout et qui, par exemple, quelqu'un qui va être dans la musique va pouvoir être curieuse à essayer de l'acting, par exemple. Voilà.
C'est génial. Alors, en acting, justement, on est d'autres autour de la table, mais on peut tendre le micro à Michael, hein, Michael Buxton, qui est avec nous. Alors, Andrea, on va te saluer juste après, évidemment. On va faire le tour autour de la table, parce que là, vraiment, la transition est parfaite. Tu pourrais bosser à ma place. Et en plus, j'enlèverai même pas ça au montage, pour que les auditeurs voient que je suis un vrai escroc en termes de présentation, évidemment. Alors, Michael, on t'a déjà eu dans l'émission, Michael Buxton, on t'appelle comme ça, mais nous, on se connaît parce qu'on a eu 2, 3, 4, 5, 12 fois dans l'émission, avec grand plaisir. C'était pour des web-séries, c'était aussi pour des projets que tu avais eus. Et puis également une émission hommage quand on avait appris la disparition de Sean Connery, évidemment, hein, dernière en date. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, tu es un des derniers membres de l'association qui est rentré. Et toi-même, tu as pu participer à un tournage de l'association avec Alexis, qu'on avait déjà eu dans l'émission, hein, qui est cofondateur avec Julie de Onissime.
C'est ça, j'ai inauguré en fait la série des One Day, qui consiste à créer un projet de A à Z en une journée. Donc la première session a eu lieu il y a quelques semaines et donc en gros on arrive le matin, on réfléchit à des idées, on écrit un scénario ensemble. Oui, j'ai participé effectivement une première fois au One Day, une série d'événements qui ont été créés il y a quelques semaines maintenant, qui consiste à créer un projet et le tourner vraiment, donc tout faire de A à Z en une seule journée. En gros, on arrive le matin, on réfléchit à une histoire, on écrit le scénario, et après, bah, l'après-midi, en gros, on tourne l'histoire, et après, le montage, c'est une seconde partie, mais voilà, à la fin de la journée, en gros, on a tourné un film. Donc, par rapport à la durée qu'on a à notre disposition, c'est un court-métrage, forcément. Mmh. Mais voilà, donc j'ai participé une première fois, il y a quelques semaines maintenant, et c'est un rendez-vous qui va être logiquement mensuel, d'après ce que j'ai compris, donc j'y participerai certainement de nouveau à l'avenir.
Alors on peut rappeler ton parcours, hein. C'est vrai qu'au départ tu es plutôt dans le domaine des numériques, des jeux vidéo, puis après tu t'es lancé, on rappelle à nos auditeurs qu'on t'a vu plusieurs fois dans l'émission parce que justement ce parcours-là est très intéressant, hein. Et puis à un moment donné tu te lances dans l'acting, et c'est vrai que là pour le coup bah, t'enchaînes les tournages, quoi. T'en fais énormément dans l'année, en une année tu peux avoir combien de flux à ce niveau-là?
C'est entre 3 et 7 projets différents, ah, ça oui. dépend selon les années. Mmh. Donc selon les durées, disons que oui, je viens d'un domaine qui n'a rien à voir. J'ai commencé par ma première vraiment confrontation avec le monde du travail et le monde artistique, c'était au travers d'un groupe de musique que j'ai fondé dans les années 90, parce que oui, j'ai 46 ans, voilà, donc voilà, je précise, hein, pour, comme on ne me voit pas, on m'entend, je précise que voilà, je suis né en 77.
Hein, il a regardé Friends lors de la première diffusion.
Même pas, je ne l'ai jamais vu, je l'ai regardé pour la première fois il y a 2 ou 3 ans, donc
obligé,
je suis en retard.
T'es obligé de nous gêner comme ça.
Désolé, sur le tard. Donc non, j'ai commencé avec un groupe de musique que j'ai fondé dans les années 90 pour un style dont j'étais très fan qui s'appelait l'Eurodance. Okay. Donc j'avais monté mon propre groupe d'Eurodance en 96. On avait très très bien marché, on avait été repéré par la chaîne de télé MCM à l'époque, on avait fait une tournée avec eux. Et au bout de 2 ans, je m'étais dit, tiens, Internet arrive, ce serait intéressant peut-être d'essayer de se faire un site Internet. Et donc j'ai fait un site Internet pour le groupe, et en fait en faisant ce site, je me suis découvert une nouvelle passion par rapport à ça, et c'est devenu plus tard un métier. Donc depuis fin 90, en fait, j'ai créé des sites internet et j'ai gagné ma vie grâce à ça, et j'en fais pour des clients, enfin voilà. Et de là, en cours de route, j'ai effectivement fait un magazine de jeux vidéo qui m'a fait voyager à travers le monde, qui m'a fait rencontrer plein d'acteurs de cet univers. J'ai interviewé plein de personnes, j'ai vu du pays, enfin c'était génial.
Justement au moment où les jeux vidéo devenaient de plus en plus cinéma, quoi. Donc t'as vraiment une période de transition où la préhistoire des jeux vidéo devenait vraiment très vidéoludique, quoi.
Bah c'est ça, en fait c'était en 2005, moi je suis un geek depuis tout petit. Je suis un gamer, je m'intéresse à la programmation, à plein de choses. Et 2005, j'étais PlayStation 2 à l'époque, j'avais la PlayStation 2, j'attendais la PlayStation 3 qui sortait l'année d'après. Et je m'étais dit là, sur Internet, il n'y a pas trop de blogs, pas trop de sites qui parlent de la PS3. Je vais essayer de m'y mettre. Et puis ça, à ma grande surprise, ça a très bien marché. Il y a des gens qui ont voulu me rejoindre et en fait, ça a constitué une vraie équipe. Et puis, c'est une aventure qui a duré pour moi à peu près 12 ans, 13 ans, parce que j'ai revendu le site en 2018. Donc maintenant, il vit toujours, hein, mais c'est plus moi qui le dirige. Et voilà, c'était une aventure formidable. Et j'ai rencontré comme ça des gens dont j'étais fan. J'ai fait la même chose avec le catch américain. J'ai créé un site qui m'a permis de rencontrer aussi mes idoles dans ce domaine-là. Et l'acting, après, une autre branche encore que j'ai ajoutée, qui est aussi quelque chose que j'affectionne depuis tout petit. Mais tu sais, j'ai fait aucune école, pas de théâtre, je suis pas sur Paris, je connais personne. Donc autant dire que...
On vient en problématique qu'on entendait tout à l'heure avec Julie, c'est vrai que...
À quel moment tu peux...
C'est le désert de Gobi, quoi.
Voilà, donc voilà, je voyais pas comment c'était possible. Puis finalement, j'ai un ami qui m'a passé un jour une annonce de figuration. C'était en 2014, sur Tekken 3, il cherchait des policiers.
Le jeu vidéo ou le jeu film
le
avec
film avec Liam Neeson.
C'était juste pour la
voilà. pas Tekken 3, Taken 3. Ouais, voilà,
c'est
voilà.
Que tu parles anglais, mais t'es pas obligé de nous humilier avec ton accent.
Je précise. Oui, mon papa est anglais. Ouais, comme ça. Hein. Ouais. Donc, Tekken 3, et à ma grande surprise, j'ai été pris. Mais attention, figuration, c'est en gros, tu sers de décor, de pot de fleurs en arrière-plan, t'es dans le flou. Hein. Mais bon. T'arrives, le premier jour de ta vie en tant que comédien ou figurant, peu importe, c'est sur un plateau de Tekken 3 avec Liam Neeson, c'est ton collègue de travail pour la journée. Tu fais, mec, là, qu'est-ce qui se passe? Tu redeviens, tu retombes à 5 ans, tu vois, t'as les yeux qui pétillent, t'as les étoiles, enfin, c'est comme un ouf. Et donc là, je me dis, attends, ok, je suis là, super, maintenant je vais essayer de comprendre comment ça marche.
Oui, ouais,
en effet. Et donc, j'ai discuté parce que sur un tournage, on discute, on attend plus qu'on tourne, hein, réellement.
Oui,
et donc, je discute, je vois comment toi t'es arrivé là, etc. Puis de fil en aiguille, je commence à comprendre comment ça fonctionne, comment, avec Internet maintenant, mine de rien, les frontières tombent, même si t'es pas sur Paris. Et donc, bah voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir d'autres opportunités. Et puis petit à petit, bah une phrase, deux phrases, trois phrases. Petit rôle, second rôle, rôle principal sur du long métrage, du court métrage, de la web série, sur plein de choses différentes. Et puis bah tu vois, quelques années après, effectivement, j'enchaîne beaucoup de projets, on me confie des rôles relativement importants régulièrement, donc c'est super. Et tout ça en partant de rien, les mains dans les poches quoi.
Ouais, concrètement. Et c'est vrai que on avait déjà eu l'occasion de parler de ton parcours il y a quelques années. C'est bien de voir l'évolution, parce qu'à l'époque tu nous disais même que il y avait des directeurs de casting qui avaient pas trop d'imagination, qui te confiaient tout le temps les mêmes rôles, en tout cas qui te voyaient toujours comme un méchant de service. Et on voit aussi l'évolution dans la palette que tu peux couvrir après quelques années quoi.
C'est ça, mais après bon, ça reste toujours un problème franco-français.
Oui.
Le fait d'être mis dans une case.
Oui, ouais, complètement.
Et puis ne serait-ce que bah, si t'es danseur, tu peux pas être acteur, ou si t'es animateur télé, tu peux pas être musicien. Ça marche pas. Aux États-Unis, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est normal. Chez nous, on te met dans une case, faut pas trop en sortir, parce qu'on a du mal à l'accepter. Mais et donc les rôles, c'est pareil. Mine de rien, tu vois donc. Taken 3, j'avais postulé pour être policier. Ils m'ont dit, toi, tu seras mafieux russe.
On se rappelle très bien de cette anecdote.
Ok.
Qui était très drôle.
Pourquoi pas. Et puis en plus, je me rappelle la directrice de casting, le jour où j'arrive, elle me dit, mais Michael Buxton, d'accord. C'est quoi ton vrai nom? Je dis, bah, c'est ça en fait. Ah bon, c'est ton vrai nom, c'est pas un surnom, tu vois, un nom d'acteur. Je dis, bah non, tu veux voir ma carte d'identité ou c'est pas Jean-Michel Tartampion, tu vois, c'est non, c'est mon père est anglais. Hein. Et donc, on te met dans une case comme ça, d'accord, ok. Et donc, par contre, c'était cool parce que derrière, on m'a rappelé quelques semaines après pour le Transporteur 4, même directrice de casting qui s'est occupée de moi. C'était très bien passé la première fois et on avait tout ce qu'il fait. Et donc, elle m'a rappelé, elle me dit, écoute, j'ai un rôle à te proposer, enfin. Pour de la figure, c'est de la silhouette. Et pour faire un mafieux russe. Ah !
Tu vas rire.
Et non !
C'est sûr que quand tu dois faire ton book de comédien, après, t'as la section mafia russe qui est assez développée. Quoi.
Après, quand t'as un CV, c'est que mafieux russe, bon, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Autre chose, mais là, je sais pas faire. Ouais. Donc, mafieux russe, c'était super. Et après, ils m'ont appelé pour Valérian.
Oui.
Là, c'est pas mafieux russe. Hein. C'est un film, il n'y a pas de mafieux russe.
Ça va être dur de remplacer. Hein, voilà. Franchement, là, c'est...
C'était un soldat. Bon, voilà, c'est autre chose. Et à chaque fois, c'était des. Bah, en gros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'échelle des grades, entre guillemets, dans le métier de comédien, en fait, il y a figurant, c'est pot de fleurs, il y a silhouette. C'est la même chose, mais par contre, on te voit bien. T'es pas pauvre fleur. Tu parles pas. Par contre, tu peux être autour des acteurs principaux, donc on peut te voir bien. Après, t'as silhouette parlante.
Oui.
T'as une phrase ou deux, pas plus. Et après, t'as petit rôle. Donc là, tu peux avoir plusieurs répliques avec des comédiens. Second rôle, rôle principal.
D'accord.
Voilà. Donc il y a différents niveaux comme ça et la grille de salaire va avec aussi.
Mais il y a toujours cette limite mythique du nombre de mots que dit un figurant, et à partir de 10, en gros, on est crédité quoi.
Oui. Bah, disons que en fait, tu as une convention, comme n'importe quel domaine d'activité, et effectivement, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en gros, je ne sais plus combien c'était, mais c'est genre, je te dis une bêtise, hein, mais c'est genre en dessous de 5 mots. Tes silhouettes parlantes, donc c'est tel tarif, à partir de 6 mots, tes petits rôles, tu vois, et c'est pas le même tarif. Donc, et des fois, alors c'est pas aussi strict que ça, mais il y a une époque où les mecs, ils étaient au mot près, quoi.
Oui,
attention,
bien entendu.
Hein. Que tu passes de, je sais pas, de 100 à 250 euros, c'est pas pareil, quoi.
Ah oui, si tu te lances dans une tirade et que t'improvises le CID, tu peux gagner 300.
Ah bah, s'ils la gardent après,
bien sûr.
Ils assument, faut qu'ils te changent de statut après.
Ouais, exactement. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant, puis on va revenir évidemment sur le parcours d'une nation en province, parce que c'est vrai que là, on voit ton parcours à toi qui est intéressant et qui est très important, mais qui est évidemment facilité par les initiatives qu'on a avec l'association en région, hein, qui va évidemment encourager beaucoup de ces parcours-là. On continue évidemment tout de suite dans Graffiti de parler de cette initiative, de cette association. To myself, then when you were out, pretty faces always make you stand out in a crowd. When one picture from the bunch, one glass was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please?
Show you, girl, that I know wrong from right. Every street I walk down, it has tear stains on the ground. Following a girl I didn't even want around. Oh, baby, give me one more chance. Show you that I love you. Won't you please save me back in your heart? I want you back. 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 All I want. I want you back. Don't know all I need. I want you back. Don't know all I want. I want you back. Oh well, all I need. I want you back. Oh well, it's all I want you back. I want you back, baby, yeah, yeah. I want you back, dum 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 dum. I want you back, yeah, yeah, yeah. Oh, I want you back. Baby, I was blind to let you go. I want you back. Won't you please send me?
I want you back.
Back in your heart.
I want you back.
Give me one more chance.
I want you back.
Show you that I love you.
I want you back.
Since I see you.
I want you back.
I want you back.
Oh, I want you back.
I want you back.
Ooh, I want you back.
I want you back. Oh,
I want you back.
On est toujours au Moulin à Gaufres, on est sur Orléans et on parle évidemment de Onifilm, cette association à qui on ouvre les portes aujourd'hui pour un podcast qui est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir une association en région qui met en avant le cinéma et on découvre des parcours évidemment pendant toute cette émission-là. Mickaël, juste avant la pause musicale, on était avec toi, on parlait de ton parcours de comédien et c'est vrai que on entendait, c'est vrai que t'as un parcours vraiment qui est hyper intéressant et inspirant. Mais en quoi évidemment une association en région peut faciliter, je dirais, une carrière d'un comédien qui commence à être établi, avoir des contacts et faire beaucoup de tournages? En quoi, pour toi, tu vas avoir besoin de rejoindre une association comme Onifilm?
Alors, c'est pas une question de facilité,
oui.
C'est plutôt une question de profiter différemment,
okay,
de se mettre, d'exploiter, comment dire, le métier d'acteur différemment. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai rejoint l'association. C'est d'abord, Alexis, on se connaît depuis plusieurs années.
Ça aide.
On avait bossé ensemble sur un projet que j'avais moi-même monté. Et du coup, on a gardé le contact. C'était en 2016-2017, donc ça fait longtemps. Mais on a gardé le contact. J'ai suivi l'aventure Onifilm dès le début parce que voilà, on est sur les réseaux, on se suit. Et puis, les tournages que je fais, forcément, 90% c'est sur Paris. Ou alors c'est en région, mais loin. C'est genre Brest, Strasbourg, c'est loin. C'est pas Orléans. Et donc pourtant, c'est là où j'habite, donc c'est dommage. Et donc, j'en reviens à la deuxième raison. C'est que du coup, comme c'est près de chez moi, j'apprécie aussi de pouvoir participer à des projets près de chez moi plutôt que de me taper des trajets Paris. Parce que, un exemple tout bête, mais tu sais, quand tu vas juste pour un casting à Paris, tu vas passer 10 minutes. Mais sauf que, en fait, quand tu comptes du départ de chez toi au retour de chez toi, t'as cramé une demi-journée minimum,
oui,
pour 10 minutes. Donc, si tu veux, j'ai envie d'autre chose des fois. Donc, c'est aussi ça. Et puis, pourquoi je les rejoins maintenant et pas plus tôt, puisque ça fait plusieurs années, comme le disait Julie, que l'association existe, c'est que au début, j'attendais de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et au fur et à mesure que ça a évolué, j'ai commencé à voir des projets qui avaient vraiment de la gueule, qui étaient très sympas et franchement qui tiennent bien la route à tous les niveaux, devant ou derrière la caméra. Et je me suis dit, je pense que l'ensemble, je pense qu'on est tous un peu mûrs pour se rejoindre. Et c'est là où il y a quelques mois, il y a très peu de temps, je me suis décidé à rejoindre l'association pour les participer à côté de chez moi à des projets cinématographiques.
Ça c'est très important, surtout qu'on a pas mal de décors et d'autres questions comme les décors et tout le reste, on va y continuer évidemment de l'aborder. Julie, on va te retendre le micro tout à l'heure, mais là Andrea, on est avec toi également, parce que tu es également un membre de l'association et tu fais également des choses qui sont très complémentaires de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, parce que tu es dans un domaine qu'on a à peine évoqué jusqu'à maintenant, qui est plutôt le domaine musical.
Oui, alors moi je suis entrée à Onifilm il y a un peu plus d'un an, parce que Alexis recherchait quelqu'un pour faire du violoncelle.
Okay.
Et donc moi j'ai répondu, je fais pas de violoncelle, je fais de la contrebasse, mais je suis là, je suis déter, il n'y a pas de problème.
Je suis déter en contrebasse, j'adore cette phrase.
Ouais, ça fait très 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 longtemps que je joue de la contrebasse, j'ai commencé, j'avais 3 ans.
Oh là là, ouais. Voilà, et aujourd'hui tu as à peu près 53 ans, non je plaisante. Ouais. Non, alors, du coup ça fait plus de 20 ans, c'est, oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait 20 ans que tu fais
du
de
coup,
la contrebasse.
Du coup là, ça commence à chiffrer.
Oui. Ah oui, complètement.
J'ai un beau parcours musique, enfin... Oui, un beau parcours musical. J'ai eu l'occasion de jouer dans plusieurs orchestres, y compris à l'étranger d'ailleurs. Et ce que Alexis cherchait, c'était quelqu'un pour figurer sur son nouveau film Constantia.
D'accord.
Qui est un projet qui commence à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Parce qu'au début, donc, je suis arrivée sur ce projet, on était 3 ou 4. Aujourd'hui, on est plus proche des 30-40 personnes, facilement. Et du coup, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais fait et de très intéressant, autant musicalement que pour apprendre. Comme disait Julie, on est pas mal sur l'interdisciplinarité.
Vous aimez bien les mots de 4 syllabes, hein,
genre. Oui.
Vous êtes en train de... Et non, mais évidemment, on comprend parce qu'il y a logique également, de, comme disait Mickaël tout à l'heure, de ne pas être dans une case et de pouvoir avoir plusieurs compétences. C'est hyper enrichissant, évidemment. Et ça, c'est assez important. Donc là, concrètement, tu as pu bosser sur une bande-son, en fait.
Voilà. Donc en ce moment, je bosse avec Philippe et Alexis sur la bande-son du film Constantia. Mais j'ai eu l'occasion d'inaugurer, tout comme Mickaël, le One Day, qu'on a tourné ensemble il y a un peu plus d'un mois, et en tant que figurante cette fois, chose que j'avais jamais faite jusque-là, qui c'était super intéressant. Ça permet de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles choses auxquelles je ne me serais pas forcément intéressée dans le courant de ma vie. Et voilà, moi je trouve que c'est de belles opportunités.
Alors, pour l'aspect bande-son, pour le coup, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que quand tu débarques, on te commande une bande-son, on te donne un thème, on te donne des inspirations ? Comment ça s'écrit ? Est-ce que c'est toi qui joues, qui l'interprète ? Comment ça s'est passé ?
Alors, jusque-là, on s'est retrouvés une première fois avec Philippe pour bosser un peu tous les deux sur les notes. Philippe me dit, écoute, moi, je pense, j'ai un peu ce thème dans la tête. Qu'est-ce que tu m'en ressors ? Et donc, tous les deux, on va avancer sur tout ce qui est plutôt théorique à propos de la musique, tout ce qui est notes, enfin, les trucs un peu barbants. Et après, dans un second temps, là, par exemple, demain, on va se retrouver à Polysonic, un studio d'enregistrement sur Orléans.
D'accord.
Et donc là, on va faire du concret. On va enregistrer. On va faire des crash tests où on va découvrir...
Crash test en contrebasse, ça ressemble à quoi ? Vous les balancez contre les murs ?
Ouais, ça... non, ça ressemble à... Philippe qui peut avoir une idée et puis au final, moi, je lui donne une idée, mais totalement à l'opposé. Lui, il n'y avait pas pensé du tout.
D'accord.
Donc on fait une sorte de petit mix.
Okay.
Et hop, ça donne un nouveau truc auquel on n'avait pas pensé.
Vous êtes sur un seul instrument quand vous faites ça, ou vous êtes quoi, ton instrument de prédilection, mais j'imagine peut-être.
Ouais, moi j'ai ma contrebasse. Ouais.
Ouais, tu faisais à 2-3 autres instruments parce que c'est assez universel au final.
Ouais, comme tout, enfin souvent les musiciens que j'ai pu rencontrer, tout le monde me dit, écoute, moi j'ai commencé avec tel instrument, mais je suis touché à tout, parce qu'à partir du moment où on connaît les notes, c'est facile de transposer, enfin à mes yeux du moins.
Quand je suis passé du piano au triangle, j'étais un peu en galère. Hein,
triangle, c'est un peu plus compliqué, mais.
Ça dépend des triangles, on va dire.
Mais ouais, Philippe,
donc, du coup,
lui
et. Contrebasse, t'as quoi ? Tu vas avoir quoi comme palette ? Tu vas avoir contrebasse et piano, je pense.
Ouais, le piano, la guitare, la basse électrique.
Ok.
Tout ça.
C'est un beau panel.
Ouais, après j'ai fait un peu de flûte à bec, le truc a rien à voir.
ça, ça, mais nous rappelle, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs de cours de musique.
Voilà.
Est-ce qu'on peut arriver à sortir quelque chose de la flûte à bec?
On peut
répondre enfin à cette question-là.
Oui, on peut, oui. C'est avec du travail et de l'envie.
Okay.
Mais c'était pas avec mon travail et mon envie que j'ai pu sortir quelque chose de la flûte à bec.
Très bien. Bah, c'est bien d'entendre ça, qu'il y ait des gens qui témoignent en France en 2023 que cet instrument n'est pas juste de la torture pour les collégiens. Et...
Non, on peut en faire de très très belles choses.
Oui, certainement.
Ouais, mais.
Ouais. Donc, alors du coup, je venais un petit peu, mais c'est vrai que c'est bien de comprendre le panel. Et donc, ensuite, vous allez jouer sur 2-3 instruments pour faire des variations sur un thème et voir ce qu'il en donne.
Ouais, voilà, en fait, Philippe, lui, va avoir de son côté un petit piano électrique.
Okay.
Donc, il va me dire, moi, je pensais telle note. Donc, il va me faire 2-3 notes au piano électrique. Puis moi, je vais lui faire, mais à la contrebasse, je peux te faire ça en plus aigu, plus grave. On peut faire ça avec... tout bas à tout fort, ou de tout fort à tout bas, et on peut faire des petites variations, enfin, il y a plusieurs positions sur la contrebasse qui permettent de sortir des sons auxquels personne ne pense. Je peux sortir des sons aussi aigus que le violon,
ah oui,
pourtant une contrebasse okay. est super grave, et du coup c'est super chouette, parce que ça fait aussi, ça me permet de faire découvrir mon instrument aux autres, et de montrer que la contrebasse ben, ce sont pas que des préjugés sur le jazz. Voilà, on peut être partout, vraiment. Et c'est un instrument, mine de rien, très présent. Mais quand il n'est pas là, on sent son absence.
Mais tu as peut-être des exemples de bandes-son là où la contrebasse est déterminante. Alors, je n'allais pas dire les dents de la mer parce qu'il me semble que c'est un thème de violon. Mais enfin, il y en a plein chez John Williams, et notamment les orchestres comme ça, un peu de chambre, où c'est évidemment un instrument déterminant. Mais il y a peut-être des thèmes, un ou deux, que tu peux nous citer où tu reconnais que ton instrument est déterminant pour certaines ambiances.
Bah, par exemple, alors moi, le morceau qui m'a marqué et qui me marquera toute ma vie, c'est le Boléro de Ravel. Vraiment, il me marquera vraiment à vie, parce qu'à la contrebasse, j'ai 5 notes à faire. Donc, pour moi, cette partition est un peu ennuyante. Mais pour avoir joué ce boléro en orchestre, on l'a joué en Allemagne, et je l'ai écouté du coup en bande-son enregistrée là où moi je jouais, et au final je me suis dit, ah ouais, mais la contrebasse elle est là et elle soutient tous les instruments, et à partir du moment où moi je me plante à la contrebasse, t'es sûr que l'orchestre se plante derrière.
Ouais, en gros c'est la base rythmique voilà. sur laquelle tous les autres vont
se reposer sur moi.
Ok, c'est une grosse pression quand même.
Un peu, ouais.
Mais c'est pas le moment d'éternuer quoi, surtout que le morceau dure une demi-heure à peu près, non?
C'est ça, ouais.
Donc c'est oui.
C'est super long,
oui.
C'est très très long, et d'autant plus que je m'en suis surtout rendu compte en plein concert dans une église, parce que mon archet a cassé en plein morceau.
Alors, l'archet, c'est ton instrument, c'est Robin Desbois qui s'est cassé la gueule. Voilà.
Non, c'est ce qui me sert à frotter sur les cordes.
Okay.
Et du coup, l'archet a cassé en plein concert, et le chef d'orchestre me regarde et me dit, il se passe quoi? Et tout le monde essaie de continuer de jouer malgré tout, mais c'est tombé dans l'eau. Enfin, vraiment, ça fait un gros flop. Donc, on m'a prêté un autre archet, gentiment, pour qu'on puisse finir le concert quand même. Mais c'est un endroit où c'est à ce moment où j'ai vu que j'étais importante, ouais, parce que tout le monde, mais vraiment tout le monde, hein. Même le premier, celui qui est là, qui est vraiment à fond, que tu peux pas déstabiliser, bah, même lui, il a fait flop.
Mais je peux te poser une question, c'est vrai que souvent sur les instruments à cordes, il y a un gros cliché du cinéma, c'est de l'imaginer comme des instruments tragiques, hein, parce qu'on sait que le violon, c'est des instruments qui sont très très proches de la voix humaine, hein, le violon, la contrebasse, ouais. Donc sur des thèmes comme la vie de Schindler, etc., souvent on va associer les cordes à des ambiances tragiques, dramatiques. Et pourtant, il y a beaucoup d'inventivité parfois dans certaines bandes-sons, où là il y a le pizzicato, où on va piquer ouais. les cordes, notamment, qui peuvent, notamment dans du cinéma de genre, créer des ambiances sonores très 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 surprenantes, quoi, pour ces instruments-là. Est-ce que dans les crash tests, tu à tester des choses improbables comme celle-ci, ou t'inspirer de bandes-sons qui repoussaient un peu les limites de l'instrument?
Non, on va vraiment tester de tout. Donc ça va partir de... Par exemple, à la contrebasse, je peux faire des vibratos.
Okay.
Et du coup, la dernière fois, j'ai proposé à Philippe, écoute, moi je peux faire telle vibration. Enfin, voilà, il m'a fait, mais c'est trop bien. Ou je peux faire sortir une harmonique de la contrebasse. Donc c'est un endroit bien précis sur la corde. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 50. Et Philippe, la dernière fois, a adoré. Il était super fan. Donc, au final, on a pris les harmoniques. Alors, Philippe n'était pas du tout parti là-dessus. Il était parti sur une base de 3-4 notes consécutives, voilà, à jouer en répétition. Et ça nous donne pas mal d'idées. Donc là, par exemple, pour demain, moi, j'ai quelques idées à proposer à Philippe et à Alexis de ce qu'on a déjà enregistré la dernière fois. Du coup, j'ai pu y réfléchir, j'ai pu bosser un peu de mon côté. Et demain, je vais leur faire découvrir un peu ce que je me dis. Comme, enfin, ça peut être quelque chose de nouveau auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Mais pour revenir sur la contrebasse, c'est un instrument qu'on a souvent dans les musiques de films comme La Liste de Schindler. Je l'ai déjà joué à la contrebasse, ouais, c'est un super morceau à jouer.
Oui, oui, puis en plus, oui, on mesure vraiment l'ampleur du thème. Hein.
Oui.
Alors que là, c'est assez exigeant, même émotionnellement.
Bah, c'est lourd à jouer. Et faut se mettre. Souvent, quand je joue, je me mets dans le morceau, dans la partition. C'est-à-dire que je vais vivre en fait la partition avec ma contrebasse. Donc, sur La Liste de Schindler, moi, je vais avoir envie de pleurer pendant que je joue.
Oui, il y a beaucoup d'images de concerts comme ça, ou sur des bandes-sons assez tragiques, on voit que les médecins, les musiciens, alors ils ont peut-être besoin de médecins après, mais blague à part, c'est vrai que les musiciens sont embarqués évidemment par l'émotion. Bon, ça, c'est de la palissade, ça va sans dire, mais c'est bien quand même de le rappeler, l'air de rien, que ce soit fusionnel comme ça avec l'instrument, et également quand on crée des bandes-sons. Est-ce que, alors, de questions très très basiques, très ludiques, ça peut arriver de créer des thèmes, des ambiances, des bandes-sons? Et après, on a besoin de faire une fête, en quelque sorte, une veille, et de se dire, mince, est-ce que ça n'a pas été trouvé avant? C'est une question assez bête, en fait, que je pose, là, mais est-ce que, du coup, ce genre de réflexe, ça peut venir quand on crée des gammes ou qu'on teste des sons?
Bah, souvent, pour ma part, je vais m'inspirer de choses que je connais déjà, d'une suite de notes que j'aime bien, qui sonnent à mon oreille, et je vais remodifier tout ça, je vais ajouter 2-3 dièses, un petit bémol par-ci, et ça va sortir un nouveau truc, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait à la base, mais c'est super intéressant, parce qu'on peut prendre tout à fait une base qui est super connue, un enchaînement de notes qu'on retrouve souvent, que ce soit en majeur ou en mineur. Majeur, c'est plutôt quand la musique est joyeuse. Mineur, c'est quand la musique est triste. T'as bien envie de pleurer. Et
tu vas pleurer, je t'ai mis 4 bémols. Tac, pleure.
Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Exactement. Et là, jusque-là, avec Philippe et Alexis, on n'a pas eu de ce truc de « Oh, mais ça existe peut-être déjà » et tout. Enfin, non, d'accord. Vraiment, on prend nos idées, on papote autour de cette idée, puis au final, on en ressort quelque chose... auquel on n'avait pas forcément pensé dès le départ.
Très bien, bah c'est cool. C'est vrai que on voit en tout cas l'ampleur des compétences hein, qu'on peut apporter dans une association dès qu'on se lance. Julie, du coup, je voulais poser une question en fait par rapport à toutes ces bonnes volontés qui débarquent dans l'asso. Est-ce que, parce que ça évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de territoires en fait où il y a un besoin de cinéma. On en parlait tout à l'heure avec Michael, on en parle aussi à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas, alors une crainte, c'est un grand mot, mais on sent un peu parfois dire waouh, il y avait un tel besoin. Est-ce qu'on est en mesure de répondre à tout en fait? Est-ce qu'on n'est pas un peu débordé? En quelque sorte, est-ce que cette crainte-là peut arriver quand on voit qu'il y a beaucoup de bonne volonté qui débarque et qui amène leur pierre à l'édifice?
Alors c'est pas une crainte parce qu'on est toujours super content de voir qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses et qui ont des idées. Donc c'est pas une crainte, au contraire, nous on est ravis de voir que ça, qu'en fait, comment c'est petit, ça engendre des projets encore plus gros et tout ça. Nous évidemment, on fait à la hauteur de ce qu'on peut dans notre association. On est déjà presque 40 adhérents. Donc c'est déjà pas mal à gérer. On fera toujours évidemment passer les projets des adhérents en premier. Mais après, nous aussi, on encourage beaucoup les adhérents à faire des projets entre eux. Et on ne peut pas évidemment accompagner tous les projets. On ne peut pas évidemment accompagner tout le monde. Mais quand il y a par exemple quelqu'un qui va proposer un projet ou qui va dire « moi j'ai telle idée », et ben on va lui dire, ben écoute, il y a 7 autres personnes dans l'association qui fait de la musique par exemple, ou 7 autres personnes qui connaît du montage, peut-être que vous pouvez travailler ensemble pour faire ce projet, sans forcément que nous on soit là à vraiment soutenir le projet, peut-être que vous pouvez le faire ensemble, et que vous allez faire naître ce projet ensemble, et c'est super bien en fait, de voir que... Nous, on plante juste la graine, en fait. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est super beau de voir ça, parce que on fait une espèce de centre créatif. Donc, les gens, ils viennent, ils se rassemblent, ils se rencontrent, ils partagent des connaissances, tout ça. Et puis après, c'est eux qui en font ce qu'ils veulent, en fait. Et c'est super beau de voir ce genre de choses.
Très bien. Bah, on continue, en tout cas, à parler de l'asso. En très bonne compagnie. Merci, en tout cas, déjà, pour toutes ces retours.
Du coup, plutôt dans le désordre, parce que j'ai pas vraiment de top. Mais déjà, le garçon et le héron, quand même. Ensuite, les feuilles mortes, parce que je connaissais pas du tout le réalisateur. Et du coup, après, j'ai regardé d'autres films, mais j'adore l'esthétique, les couleurs, tout ça, j'ai adoré. Et après, le livre des solutions, j'ai trouvé ça très drôle. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je crois que je l'avais vu en avant-première ici. Et j'avais trouvé ça très bien mené. Et Anatomie d'une chute. Parce qu'on est vraiment absorbé dans le film et dans le procès. Enfin, j'avais trouvé ça super aussi. Voilà, je crois que...
Donc là, c'est tous les films que tu as vus cette année.
Ceux au cinéma, mais il y a aussi l'année dernière.
C'est
pratique, hein.
Ah ouais, c'est dingue, ça. C'est super appliqué.
C'est Letterbox.
Tu vas voir.
Je fais la promo.
Bien vu. Tu fais Sort By.
Merci beaucoup.
Cricu, enchaîné. New Rating, IS First.
Vous voulez enchaîner? Lucas, tu veux enchaîner ou sur ton top ou pas?
Moi, j'en ai.
Sur ton top, c'est
l'ordre. Je sais pas dans quel ordre.
Ouais, sinon, tu nous en donnes 2-3.
Ah, j'en ai oublié, hein.
Bah, vas-y, tu rajoutes-le si tu veux, je coupe le montage.
Après, il y avait Mon Crime aussi. Mais peut-être pas un coup de cœur non plus, c'était sympa. Ouais, voilà.
Peut-être, voilà, c'est noté. Parce que les gens, ils vont pas pouvoir acheter 150 DVD, donc donnez-en 2-3. C'est trop cher, franchement, mais faites des soldes. What? J'aurais pris juste le pâté, moi. Bah, comme vous voulez, si vous voulez enchaîner, bah, comme tu veux. Après, tu voulais. Oui, si t'es OP, t'hésites pas. Ça marche. Quand tu veux.
Alors, du coup, un peu pareil, c'est dans le désordre, sauf que bah, j'en ai un vraiment qui prédomine, du coup, c'est Aftersun.
Ok.
Dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment puissant. Puissant dans mon top. Après, Disco Boy, du coup, avec. Je sais plus son nom, mais.
Gros souci de nom, là.
Hein. Ouais. Mais de Giacomo Abruzzese.
Ma.
Ma.
J'ai toujours envie de dire Ma quand j'entends.
Qui était vraiment cool avec la BO de Vitalik, qui est un DJ musicien électronique, etc., que j'avais. Enfin bref, j'ai adoré ce film-là. Après. Il y a Tropic qui est pas passé ici. Hein non, Tropic d'Edouard Salier, il est pas passé ici.
Il y a combien de Tropic en fait? Ah non, oui, 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 Pacifiction. Ouais. Il y a une lettre en commun.
Après, très rapidement, il y a Retour à Séoul qui était très cool. Limbo. Les gens n'ont pas trop parlé, mais qui était avec un noir et blanc qui était juste sublime et même qui était techniquement juste incroyable, je trouve, même scénaristiquement, trop bien. Un documentaire aussi, Toute la beauté, le sang versé, sur Nan Goldin, qui était juste sublime, du coup de Laura Poitras, qui avait fait Citizen 4. Avec Edward Snowden, et là du coup elle s'est penchée sur la photographe Nan Goldin et c'était juste c'était prenant, très prenant. Après il y a The Whale de Darren Aronofsky en début d'année.
Non mais oui, j'ai du mal, mais vas-y, parce que
ouais, je sais pas, là je balance un peu tout ce que j'ai, c'est pas trop dans l'ordre. Il y a Yannick évidemment de Quentin Dupieux qui était
Non.
Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le livre des solutions. C'était très cool. Le livre des solutions qui ressort?
Non, qui parce que tout à l'heure quelqu'un d'autre l'avait cité. Bah, tu l'avais cité, ouais.
Voilà. Après Ashkal en début d'année.
Ouais, c'est très bien ça.
C'était très bien. Qui est en ce moment sur Canal Plus. Si quelqu'un a le Canal Plus. oui non. Et voilà, après je vais laisser la parole aux autres.
Bah, je vais redire beaucoup les mêmes choses.
Je rattraperai mon
notamment Ashkal qui était très bien, Retour à Séoul aussi. J'avais adoré Inuo parce que c'est le, enfin techniquement il est sorti, il a chevauché 2022 et 2023 comme Aftersun qui était très bien aussi. Mais Inuo de Masaki Yuasa qui est quand même un réalisateur de films d'animation japonais qu'on oublie peut-être parfois, à côté des grands noms comme Miyazaki ou Osoda. Voilà. Sinon, j'avais beaucoup aimé aussi Toute la beauté et le sang versé. En ressortie, sinon, j'avais beaucoup apprécié Jeanne Dielman, qui est vraiment incroyable comme film et qui, pour le coup, la ressortie a vraiment aidé, puisque je pense que s'asseoir dans un cinéma où, par essence, on peut pas sortir, on a payé notre place, ça nous force vraiment à rester jusqu'au bout, et là c'était juste une expérience incroyable de le voir en salle. Et sinon Yannick, que j'avais beaucoup aimé parce que un Quentin Dupieux de toute façon c'est toujours une valeur sûre. Sabotage aussi, que j'avais pas mal apprécié. Et en très récent, sinon il y a Perfect Days de Kim Wenders qui est sorti dans la semaine, de Wim Wenders pardon, qui est sorti dans la semaine.
Quand je dis son fils fait du cinéma.
Et qui a eu la palme pour le meilleur acteur, donc Koji Yakusho, qui est vraiment un acteur japonais formidable. Il faut aller regarder tous ses films, notamment Cure, Kairo, et c'est l'acteur fétiche de Kiyoshi Kurosawa. Donc voilà.
Notre petite marotte comme ça.
Donc voilà pour les films.
Kiyoshi Kurosawa, ça marche. Bah, n'hésitez pas, si vous voulez continuer, si open bar, moi je coupe pas.
Moi, comme j'ai dit, je l'ai dit, ça va être très court, mais il y a un film que j'ai beaucoup entendu et que j'ai beaucoup apprécié, c'est Je verrai toujours vos visages.
Okay.
Sur la justice restaurative. Oui. Ah.
On a un peu inventé des mots. Hein.
Oui.
C'est une langue
différente. Non, mais j'ai vu. Donc,
c'est au plaisir.
Et franchement, de cette année, ça a été un film qui m'a beaucoup émue. Donc voilà, je comptais en parler.
Il parlait de quoi ce film-là?
Ouais. Restauratrice. Oui. Voilà. Et
pas de problème.
On va faire rencontrer des anciennes victimes face à non pas leur agresseur à eux, mais à des personnes qui ont commis le même acte qu'elles ont subi. Et ça permet de faire comprendre aux agresseurs leur acte. Et il y a aussi donc on a une réunion pour des actes type braquage, etc. Mais on a aussi une histoire secondaire sur une jeune fille qui s'est fait qui a subi l'inceste dans sa famille. Et on a deux points de vue, une justice restauratrice qui réussit et une autre qui est beaucoup plus complexe.
Super, ok, très bien, ça marche.
Du coup, moi aussi, je verrai toujours vos visages dans mes films de l'année, que j'ai beaucoup apprécié. Et ça, c'est un système qui existe vraiment. Enfin, moi, je connaissais pas du tout avant le film, comme beaucoup. Et ça existe vraiment dans la justice pénitentiaire. Donc, c'était vraiment intéressant de découvrir ça. Et sinon, il y a le règne animal que j'ai vraiment, vraiment aimé. Je partais pas du tout sur un bon pied avec le film. J'avais limite pas envie d'aller le voir. Et au final, ça fait partie des films où je suis ressortie de la salle et j'étais vraiment, vraiment étonnée. Et il fait partie de mes coups de cœur, vraiment, vraiment coup de cœur. J'ai vraiment trop aimé la BO, tout l'univers, c'était vraiment intéressant.
Ouais. Tu veux essayer? Allez.
Merci. Oula.
Attends, il s'accroche.
Alors pour moi, il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis c'était pas des réels coups de cœur, mais c'est juste des films que j'ai appréciés.
Ok.
Donc tout d'abord il y a eu le Spider-Man Across the Multiverse, mais il n'est pas sorti ici. Esthétiquement j'ai trouvé super beau. Moi qui n'aime pas du tout l'univers Marvel et des Spider-Man et qui les regarde pratiquement jamais, celui-là on m'a un peu forcé d'y aller et au final j'ai adoré et j'attends la suite avec impatience. Ensuite il y a eu le Procès Goldman ici. Alors pour lui, c'est tout que j'ai trouvé super intéressant et ça m'a appris des choses. Je connaissais pas du tout la personne ni l'histoire autour de tout ça et j'ai pu apprendre plein de choses que j'ai trouvé super intéressant. Et puis le huis clos, tout l'univers du film m'a vraiment plu. Et enfin, il y a Jeanne Dubarry. Alors lui, c'est pas l'histoire qui m'a touchée, mais c'est vraiment l'esthétique. C'est tous les plans. Tout le décor que j'ai trouvé magnifique, quand on voit l'extérieur, enfin la manière dont c'est filmé, j'ai trouvé ça vraiment super beau.
Super. J'en ai oublié. Ah bah vas-y, je t'en prie.
J'en avais plein et du coup j'en ai oublié deux. J'ai oublié déjà Boy the Fred, qui est le dernier Ari Aster, qui est très dense aussi, qui est très polarisant parce que j'ai vu beaucoup de gens adorer et beaucoup de gens détester. Mais il est quand même incroyable. Il y a toute une partie en animation, même si elle m'a un peu déçu, qui fait quand même bien le taf, puisque la séquence était réalisée par les mêmes réalisateurs qui ont fait La Casa Lobo, qui est un de mes films d'horreur préférés de tous les temps, je pense. Donc voilà. Et aussi, j'avais vu Everything Everywhere All at Once, qui est pareil, un peu dans le même délire de piocher dans plein d'influences. Il y a une scène où on dirait du Wong Kar-wai, enfin, très inspiré de Wong Kar-wai, etc. Et c'est le seul film qui a réussi à me faire pleurer sur des cailloux. Voilà, il y a une scène. Il y a deux cailloux qui. Il y a deux cailloux. Et j'ai
c'est
pleuré.
C'est un Dupieux, ça ?
Et bah, on dit. Non, c'est vrai. On dit, oui, on dirait. Enfin, juste comme ça quand je le dis. Mais voilà.
On a vraiment enregistré ça ? Si, c'est bon, ça, on a enregistré.
Oui.
T'as pas besoin de la refaire.
Je vais me mettre. Pleurer sur les cailloux, je redis.
Je vais me la mettre en solide portable. J'ai pleuré sur des cailloux. C'est super.
Pour la
course
du CV,
hein. Ah ouais, non. J'adore. Bah du coup, je vais le voir ce soir, parce que si on peut pleurer sur les cailloux.
Par contre, c'est un peu long et dense, mais. Ouais. Bon, faut pas le voir fatigué. Ou alors, le voir fatigué, c'est mieux, je sais pas. Mais. Ouais.
C'est comme les Miyazaki, il faut le voir 5 fois, mais dans 5 états différents.
Sous substance, peut-être.
À un moment donné, il y a des choses qui passent. Bah, c'est parfait, c'est cool, on a fait le tour.
Graffiti Cinéma, c'est fini pour cette semaine. Merci de nous avoir encore suivis. pour ce numéro. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la page et sur nos réseaux à suivre les aventures de l'association. On vous rappelle que toutes les semaines, vous avez des publications originales sur notre page Facebook et Instagram, notamment ce fameux concours de films à deviner en poésie, les Haiku Namatata, dont on n'est pas peu fier. Évidemment, Graffiti Cinéma, c'est beaucoup d'autres domaines et beaucoup d'autres tâches que vous pouvez accomplir également. Vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter directement sur nos réseaux, nos pages. On vous fera, ou se fera le plaisir de vous répondre après notre message personnalisé, qui est assez surprenant. Vous le verrez si vous avez le plaisir de nous envoyer un petit message. Alors en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour un deuxième numéro avec l'association Onifilm, avant une rediff et une petite surprise de toute fin d'année. Merci, merci de nous accompagner toutes les semaines et de nous soutenir sur les réseaux. C'est vraiment hyper plaisant de parler cinéma en très très bonne compagnie. Allez, à bientôt. Salut à tous. Bonne toile pendant les fêtes et que le cinéma survive. À quoi d'ailleurs ? Au dragon géant ? Allez, que le cinéma survive quoi qu'il arrive. Bisous à tous. Salut.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis ?
Non, pourquoi vous faites ça ?
Hein ?
Allez, donc, on regarde.